VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Kinshasa, en RDC. Le mot d'ordre de carton jaune au chef de l'État lancé par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement était largement suivi à Kinshasa, mais ignoré à Lubumbashi, la deuxième ville du pays. À Kinshasa, les rues étaient dans l'ensemble désertes ce matin. Les transports en commun public circulaient à vide ou presque, alors que les minibus privés 207 étaient invisibles et la circulation en général pratiquement inexistante. La quasi-totalité des boutiques était fermée et la seule activité visible était celle des Mamaya Mapa, vendeuses qui arpentent les rues avec une bassine chargée de pain sur la tête et des stations-service ouvertes mais sans clients. À Lubumbashi, en revanche, le fief de l'opposant en exil Moïse Katumbi, une des têtes du rassemblement dans le sud-est du pays, l'activité était normale. Cela dit, le rassemblement affirme ne pas être concerné par l'accord entre le pouvoir et une frange minoritaire de l'opposition. Elle a appelé à la résistance, commençant aujourd'hui donc avec une journée ville morte. Edi Sango a joint le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalouira.
Nulle part dans cet accord, on ne précise un mot sur l'avenir de M. Kabila. On ne dit rien. Et M. Kabila n'ose pas préciser qu'il ne sera pas candidat. En aucune manière, nous n'allons accepter un accord qui ne précise pas en esprit et en lettres que M. Kabila ne sera plus candidat. Et dans tous les cas de figure, la transition d'après décembre 2016 ne peut être géré par M. Joseph Kabila. Ça serait une insulte au peuple congolais. Vous voyez avec quelle ampleur les Congolais manifestent dans les rues depuis plus de 2 ans. Ils se font tuer pour défendre la Constitution, pour défendre la République.
Est-ce que le piège dont vous parlez ne s'est pas refermé sur tous les acteurs congolais parce que la RDC est entrée dans une situation extra-constitutionnelle? N'importe quelle transition aujourd'hui violerait la Constitution.
Ceux qui veulent violer la Constitution, c'est ceux-là qui ont inféodé toutes les institutions d'appui à la démocratie pour empêcher la tenue de l'élection dans le délai constitutionnel. Ceux-là qui violent et veulent enterrer la Constitution, c'est ceux-là qui se sont mis dans un faux dialogue à marge duquel plus de 100 Congolais ont été massacrés par l'homme qui a 30 jours. Vous vous souvenez de la triste date du 19 et 20 septembre dernier. La transition sans Kabila, nous allons la conduire. Tous les principaux dirigeants de la transition vont prêter serment de façon solennelle en s'engageant qu'ils ne brigueront pas le poste de président de la République à la fin de la transition. La lumière premier de l'article 64 de notre chère Constitution donne le pouvoir, donne les prérogatives à tout Congolais de protéger la Constitution contre tout individu ou groupe d'individus qui s'arrogerait le droit de violer la dite Constitution. Toute autre voie qui maintiendrait M. Kabila au pouvoir voudrait dire que nous voulons tout simplement l'embrasement de la République démocratique du Congo.
Est-ce que vous adhérez à l'appel à la ville morte le 19 septembre?
Nous réitérons aussi l'appel à la désobéissance civile d'abord généralisée jusqu'au départ de M. Kabila. Et pour commencer, nous soutenons totalement la journée ville morte qui commence ce 19 octobre 2016.
Réaction d'Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Burkina Faso, le balai citoyen tire la sonnette d'alarme, dénonce et exige du gouvernement une reprise en main de la sécurité des Burkinabés. La sortie de cette organisation de la société civile fait suite à une nouvelle attaque djihadiste qui a fait 4 morts au sein de l'armée burkinabé à Ntagom dans le Sahel burkinabé. Hervé Kam, porte-parole du balai citoyen.
Aujourd'hui, le balai citoyen a choisi d'interpeller. Ça veut dire que dans les jours à venir, il est évident que nous continuerons à travailler avec l'ensemble de la population burkinabé pour que nous mettons ceux qui nous dirigent face à leurs responsabilités. Parce que nous ne sommes pas prêts d'accepter que la sécurité des personnes et des biens au Burkina soit le dernier souci des autorités parce que justement, eux sont en sécurité.
Hervé Kam du Ballet, citoyen burkinabé, un imam sénégalais reconnu coupable en juin d'apologie du terrorisme, a vu sa peine aggravée en appel d'un an de prison ferme à 2 ans. Le point Nanit Talani.
L'imam Ibrahima Sey a été condamné à 30 mois de prison, dont 24 fermes, par la cour d'appel de Dakar. Dans une décision rendue le 11 octobre, a déclaré le président de la cour d'appel, Demba Kandji. Cette peine est 2 fois plus lourde que celle du tribunal de Kolda, qu'il avait condamné à 1 an de prison en juin dernier. Le parquet avait fait appel. Professeur d'histoire-géographie dans un lycée, l'imam Sey avait été reconnu coupable d'apologie du terrorisme, d'incitation à la désobéissance militaire et d'intolérance religieuse. Interrogé au procès sur ses propos lors d'un prêche prononcé en 2015, l'imam Sey avait affirmé avoir agi au nom de l'islam et contre l'impérialisme occidental et américain, évoquant le choc des civilisations et des religions. Dans ce serment, il déclarait que tous les militaires envoyés au Mali sont des mécréants, allusion au contingent sénégalais au sein de la MINUSMA. Ibrahima Sey fait partie d'une dizaine de personnes, dont plusieurs imams, arrêtés en octobre 2015 au Sénégal pour affinité avérée avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et le groupe État islamique.
Présidentielle américaine 2016, Hillary Clinton et Donald Trump se retrouvent ce soir pour leur dernier débat télévisé avant l'élection du 8 novembre. Ultime chance pour le milliardaire républicain à la traîne dans les sondages, affaibli par les révélations sur son comportement déplacé envers les femmes. Jacques Aristide.
Ce troisième débat de 90 minutes aura lieu ce soir à l'Université du Nevada à Las Vegas au programme d'aide, immigration, économie, Cour suprême, les points chauds dans le monde et la capacité de 2 candidats à être président. Madame Clinton s'y est minutieusement préparée. Elle n'avait aucun événement public ces 2 derniers jours. Cette fin de campagne aurait pu être facile pour Madame Clinton, mais elle a également son lot de révélations gênantes, des milliers d'emails du président de sa campagne, John Podesta, ont été piratés par Wikileaks et sont publiés quasi chaque jour. Comme à son habitude, Donald Trump a continué à faire campagne dans le Colorado, enflammant ses partisans chaque jour plus agressifs envers son adversaire démocrate, dont il dénonce la corruption supposée et critiquant avec force une élection selon lui déjà truquée. Monsieur Trump, que plus d'une demi-douzaine de femmes ont accusé depuis 8 jours d'avoir eu des gestes sexuels déplacés, parfois il y a très longtemps, continue à répéter qu'il ne s'agit que de mensonges fabriqués de toutes pièces.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président russe Vladimir Poutine se rend aujourd'hui à Berlin pour un premier sommet depuis 1 an sur la crise en Ukraine avec les dirigeants allemands, français et ukrainiens. Alors du jour principalement, le respect du cessez-le-feu entre les forces ukrainiennes et rebelles pro-russes, toujours très aléatoire, l'adoption d'une loi électorale et dans la foulée l'organisation d'élections dans l'est du pays sous contrôle des pro-russes. La métropole syrienne d'Alep connaît depuis 24 heures un répit dans les raids aériens après la suspension par la Russie de ses frappes, rapporte aujourd'hui une ONG des secouristes, mais les combats se poursuivaient sur le terrain. Moscou, principal allié du président Bachar al-Assad, avait annoncé mardi l'arrêt des raids de son aviation ainsi que celle du régime sur la partie rebelle de la 2e ville de Syrie. Cette suspension intervient avant l'entrée en vigueur d'une trêve humanitaire également annoncée par Moscou et qui devrait permettre en principe l'évacuation des civils et de rebelles qui le désirent des quartiers est de la métropole. Et puis les forces gouvernementales irakiennes se préparent aujourd'hui à reprendre au groupe État islamique la plus grande ville chrétienne d'Irak, qui constituerait une importante avancée dans le cadre de leur offensive sur Mossoul, le fief des djihadistes dans le pays. Les forces fédérales sont entrées mardi dans plusieurs quartiers de Karakoch, suscitant des manifestations de joie parmi les chrétiens qui s'étaient réfugiés il y a 2 ans dans la région kurde proche. Mais les djihadistes demeurent encore présents dans cette ville où resterait très peu de civils, voire aucun. L'offensive la plus importante menée ces dernières années par les forces de Bagdad a donné lieu à des avancées rapides en 2 jours, mais le président américain Barack Obama, à l'instar d'autres leaders occidentaux, a prédit une bataille difficile. Point final à ce journal, vous retrouverez Henri Francisque dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.